Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus de cet écosystème en plein essor. Pour débuter cette 7e saison du podcast, j'ai décidé de vous proposer deux épisodes sur le thème du low-code. Comme ça, on va essayer de démystifier un petit peu ensemble ce sujet. Pour cette première partie, j'ai choisi d'inviter Pierre Launay et Arthur Kiefer, deux des cofondateurs de l'agence Cube. Ce sont des acteurs incontournables de l'écosystème no-code français, experts en particulier de Bubble. Ils se revendiquent néanmoins comme une agence low-code. Pourquoi ? On en parle tout de suite avec eux. Salut Pierre et Arthur, merci d'être là pour le 70e épisode du podcast de Contournement. Ensemble, on va parler low-code, voilà, un sujet que j'ai longtemps évité sur le podcast, que je ne voyais pas forcément comment l'aborder bien, d'autant que moi j'ai un avis un peu tranché sur le sujet, mais je vais mettre ça de côté justement pour commencer dans deux épisodes en fait d'aborder ce sujet, et en premier avec vous évidemment, parce qu'il y a pas mal de subtilités en fait, donc je me suis dit bon, il faut au moins y consacrer deux épisodes. Et ça me semblait un peu comme une évidence du coup de commencer avec vous, parce que comme j'ai déjà dit, hein, j'aime beaucoup votre approche. Et je vais pas en dire plus, parce que en fait je préfère que ce soit vous qui en parliez, vous en parlez beaucoup mieux que moi. Avant qu'on rentre dans tout ça et de ce que vous faites avec Cube, est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être Arthur en premier?
Ok, merci Alexis. Moi c'est Arthur, je suis CTO de Cube, anciennement Intrafounders à nos débuts. Du coup, je suis un des cofondateurs. À l'origine, donc on était trois. Donc moi, je suis le garant un peu technique de Cube. Moi, j'ai un background de base d'ingénieur, mais pas du tout ingénieur web, vraiment ingénieur hardware à l'origine. Et j'ai découvert un peu le web par hasard, notamment via les outils no-code. Je me suis lancé un peu comme n'importe qui découvre le no-code sur des projets perso, en me disant bon, il faut absolument que je trouve quelque chose qui puisse m'aider à lancer mes projets assez rapidement. Et donc je suis tombé sur Bubble, et puis ensuite j'ai rencontré Pierre et Thomas par la suite, et on a créé du coup Intrafounders, qui est devenu aujourd'hui Cube.
Merci Alexis, très content d'être là ce matin. Du coup, je suis l'associé de Arthur et Thomas, pour qui nous avons une pensée. Du coup, chez Cube, je suis le CEO, je m'occupe vraiment plus de la partie garantie projet, sur l'organisation projet, entre la partie commerciale et vraiment production, également la gestion au quotidien. Et c'est vrai qu'au début, alors moi du coup, je suis pas du tout le tech de la bande. Moi, j'ai fait Sciences Po à la base. Donc, okay. Si on m'avait dit que voilà, il y aurait eu Intrafounders et Cube après mes études, je pense que je l'aurais pas cru au début. Mais en fait, comment est-ce que je me suis retrouvé là à m'associer avec Arthur et Thomas? C'était également avec les premiers projets entrepreneuriaux où moi j'ai touché vraiment au no-code sur simplement les parties de promotion, de proposition de valeur sur la première entreprise que j'ai essayé de lancer via de multiples sites vitrines. Et en fait, c'est plus après avoir du coup eu un premier échec sur cette première entreprise et la deuxième qu'on s'est retrouvé du coup avec Arthur et Thomas, avec la volonté d'accompagner les entrepreneurs avec le no-code et le low-code en termes de moyens, mais avant tout vouloir accompagner sur l'approche entrepreneuriale. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, qu'on a monté Intrafounders puis Cube aujourd'hui. Voilà.
Ok. Et alors juste pour comprendre, donc est-ce que vous avez bossé dans des boîtes avant de, ou c'est vraiment une vision entrepreneur, vous aviez tout de suite envie d'entreprendre?
Alors je vais répondre parce que je suis le seul vraiment dans ce cas-là. Moi j'ai travaillé en start-up avant, pendant 3 ans, dans une start-up au Luxembourg, où c'est un peu là du coup j'ai appris finalement ce que c'était le digital déjà, cette approche donc de développement en R&D, développement web, et vraiment, mais pour le coup avec une approche entièrement de code, et entièrement où même le no code on en parlait pas, c'était même un sujet tabou. Et c'est vrai que autour de moi j'ai beaucoup de développeurs qui au début ont eu du mal aussi à saisir ce que je voulais faire, et qui se disaient un peu peut-être, je pense, que j'allais vers là tout simplement parce que j'avais pas forcément leur background ou les compétences de code.
Okay. Tout. Par facilité, quoi.
Et voilà, exactement, par facilité. Et finalement, aujourd'hui, qui ont un peu changé leur idée préfaite, je veux dire, et qui voient complètement, enfin en tout cas pour la plupart, qui voient complètement là où on veut aller et pourquoi on le fait.
Je pense qu'on va revenir évidemment sur un peu tout ce que vous avez fait, mais à mon avis, il y a pas mal de vos projets qui peuvent faire changer d'avis un peu des développeurs sur la puissance de ce qu'on peut faire avec les outils no-code, quoi. Bon, on va revenir un peu dessus après, évidemment, je pense que ça va être un peu un fil rouge, mais c'est intéressant que tu le mentionnes comme ça, parce que je pense qu'on voit une vraie évolution aussi dans la vision des développeurs du no-code, du low-code, enfin un peu tout ça, quoi.
Oui, complètement. Alors moi, je pense que déjà, il y a des développeurs qui maîtrisent certaines stacks et qui un jour dans donc stack, c'est-à-dire code, façon de coder, donc langage informatique, et qui n'en maîtrisent pas d'autres et qui, au moment dans leur vie, veulent apprendre d'autres choses, tout simplement parce que bon, bah, c'est un monde qui évolue très vite, qui évolue au rythme des innovations. Je pense qu'une peur aussi des développeurs, c'est de rester sur la touche, se dire de pas prendre le mouvement et de se dire bon bah je suis sur justement une stack, donc un langage informatique qui est un peu dépassé et il faut absolument que je change et tout pour ne
ça
pas...
Ça c'est une réalité d'ailleurs.
Mais complètement.
C'est intéressant parce que quand on parle souvent, on fait une petite digression, mais ce truc qui revient un peu, est-ce que le no-code ça va mettre les développeurs sur la touche, etc. Bon, ça on peut y répondre. Mais en réalité, déjà avant, enfin moi j'ai vécu ça, là-bas j'ai appris à développer en PHP. Franchement, aujourd'hui, des développeurs PHP, il y en a toujours besoin parce qu'il y a un héritage, tout comme il y a besoin de développeurs Java, alors que franchement, plus personne se forme au Java, quoi. Je veux dire, enfin, ici, il y en a pour justement trouver un boulot, mais bon, c'est un truc où tu peux tout à fait, sans parler de no-code, quand t'es dev, si tu te mets pas à la page, tu peux aussi devenir vite obsolète, quoi. Donc,
Oui, et puis je pense qu'il y a aussi une... Nous, on l'a toujours un peu ressenti comme ça. Chez Cube, on n'a que des développeurs, du coup. Ce n'est pas des no-codeurs qui sont arrivés sans aucune... aucun historique, du coup, de développement web et qui voient vraiment le no-code, le code et Bubble en particulier comme un peu des super-pouvoirs au service, du coup, de leur maîtrise historique qui, du coup, vont porter le regard sur, nous, ce qu'on appelle souvent vraiment la plus-value d'un projet, du coup, sur sa part. Partie programmation pure et où ils vont utiliser le no-code du coup pour aller plus rapidement, mais pas véritablement dans une sorte de guerre d'ego
oui,
où on va
à la
pas
place d'autres choses.
Voilà, exactement. C'est un peu toujours ça qu'on a ressenti et aujourd'hui, même quand on essaye d'attirer pour recruter, on ne dit pas qu'on est no-codeur et que pour nous le code et le développeur doit disparaître, mais au contraire, essayer de le présenter différemment et de montrer un peu ce mouton à cinq pattes que les développeurs de programmation visuelle devient en fait du coup, notamment avec cet outil.
Ah non, c'est très intéressant et c'est vraiment un peu finalement le fondement un peu de ce côté low code quoi qu'on va voir. Juste avant qu'on vienne justement sur la genèse de Cube Intrafounders, est-ce que je suis juste curieux de savoir toi ce que c'était ton expérience entrepreneuriale
oui
qui parce que j'ai l'impression que ça amène aussi un peu
bien sûr. Bah alors du coup Arthur est le seul de nous trois à avoir travaillé avant de lancer
ce qui est bien d'en avoir un quand même hein, parce que moi je pense quand même que alors... pour monter une boîte c'est bien aussi d'avoir été salarié avant
mais... Je ne sais pas si être alternant, c'est avoir travaillé, mais du coup, moi, j'ai fait une alternance à la fin de mes études à Sciences Po. Et du coup, mais j'ai lancé la première boîte à ce moment-là. Du coup, Thomas, c'était à peu près la même chose. On s'est retrouvés à l'ESSEC tous les trois à la suite de ce cursus. Après la première expérience professionnelle de Arthur. Donc, ça a été très entrepreneurial. Ça a été vraiment 2 années et demie de bons gros échecs, on va dire, d'apprentissage à la dure, c'est-à-dire de ne pas faire 1 euro de chiffre d'affaires et de se dire ça devient très important d'en faire si on veut faire quelque chose de viable. On est là pour quand même développer une structure, pouvoir financer des projets. Et donc, du coup, ça renforce le cuir entrepreneurial de tenir justement dans cette période un peu de traversée du désert, hein, qui a été quand même courte, parce que 2 ans, ça a été court. Mais avec
c'est
Thomas...
C'est long quand tu les vis, je pense.
Voilà.
Rétrospectivement, ça paraît court, et puis c'est dans une carrière.
Ouais, mais... c'est ça un peu. Et c'est d'ailleurs sur ça qu'on a vraiment eu un bon équilibre quand on s'est retrouvés tous les trois, parce que malgré nos différences de parcours, on a eu à un moment donné une constante commune, un vrai dénominateur commun qui était de vouloir créer, faire quelque chose. Et je pense que c'est, on en parlait tout à l'heure, vraiment l'ADN de la boîte depuis le début, c'était de faire et peut-être même au détriment de parler un peu de ce qu'on a fait. C'est pour ça que ça fait plaisir d'être là ce matin pour en parler un peu plus. Mais voilà, c'était plutôt des tentatives, une première boîte, une deuxième boîte, beaucoup d'apprentissage et ensuite la troisième qui pour le moment voilà, est plutôt une réussite.
cool. Et alors, donc ça a commencé, donc vous êtes rencontré à l'école, enfin dans cette dernière formation que vous avez fait. Et c'était quoi le déclencheur où vous êtes dit on va faire une agence ? D'ailleurs, est-ce que c'était ça le projet à la base ? Est-ce que c'était ça où vous êtes dit on va faire une agence ?
Non. Même pendant très longtemps, on voulait pas s'appeler agence.
Ok.
Non, en vrai, c'est Arthur était celui de nous trois, alors avec Thomas un peu aussi, mais qui était sur Bubble depuis le plus longtemps, du coup avec un ou deux mêmes produits, et même Thomas aussi en avait fait un pendant le master. Mais il y avait vraiment, avant même Bubble, la volonté d'utiliser justement ces deux années et demie d'expérience et de fail et de petites réussites et d'apprentissage et de partage avec les intervenants qu'on avait à l'ESSEC, qui étaient des gens brillants pour la plupart et qui nous ont fait nous poser les bonnes questions assez tôt, c'est-à-dire va faire de l'argent, essaye de traduire une idée, essaye d'exécuter plus que de penser une idée et en parler à tous ceux qui ne sont pas concernés. Donc il y avait vraiment ce côté, on a fait tout ça. On a appris des choses, on va essayer d'accompagner du coup les autres entrepreneurs, notamment à pitcher, à présenter une idée, peut-être à faire la promotion d'une proposition de valeur avec un site vitrine. Il n'y avait même pas Bubble à l'époque. Et c'est en discutant tous les trois où Arthur surtout a poussé du coup en disant « Non mais les gars, on peut aller beaucoup plus loin qu'un site vitrine avec des applications hyper personnalisées. » du coup, en fait, on s'est retrouvé autour de ça, accompagné un premier entrepreneur qui voulait lancer son site ou son app. Je ne sais plus exactement si c'était un mélange des deux. Et en fait, par défaut, on est devenu une agence, mais plus l'agence en moyens au service de la volonté d'accompagner vraiment ce côté. Même au début, on ne voulait même plus faire de cahier des charges. On pensait que le low-code et le no-code révolutionnaient complètement la manière de lancer un projet. Bon, on a rapidement compris pourquoi il y avait des cahiers des charges partout. C'était pas du tout une volonté de faire une agence au début. C'était plus s'accompagner, faire une histoire de start-up studio, product studio. Et après, du coup, on s'est vraiment transformé et assumé en agence parce que c'est ce qu'on est, voilà, d'innovation.
D'ailleurs, votre nom à l'époque, Intrafounders, aussi reflétait un peu ça, non, d'être accompagné les cofondateurs, les fondateurs. Enfin, je me souviens un petit peu, c'est à cette époque qu'on s'est un peu découvert. C'est Lucien qui m'avait parlé de vous en premier. Je crois que vous aviez fait un meet-up ensemble, Bubble. Enfin, ça remonte déjà à la préhistoire du no-code quasiment. Mais je me souviens un petit peu de ce positionnement, un peu on vous accompagne à faire votre MVP, etc. Enfin,
ouais, complètement. Bah, en fait, c'était même avant le Covid. Du coup, on avait rencontré Lucien, on avait commencé à faire quelques meet-ups, rencontré la communauté Bubble. Là, on était vraiment, je me souviens, on était autour de tables de restaurants où on sortait nos ordis pour montrer nos apps, tout.
Pas comme ce qui va y avoir lieu ce soir. Aujourd'hui, on enregistre le jour du meet-up où il y aura Emmanuel ce soir chez Allegria.
On est très loin de cette époque, ouais. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on était vraiment dans l'idée de allez, on accompagne les gens. On a vu à quel point c'était compliqué de lancer des produits digitaux quand on n'y connaît rien. Et puis surtout que quand on est développeur, on va vouloir souvent prendre le chemin le plus long, alors que nous, on avait une approche un peu plus externe. Et je pense que le manque d'expérience justement en développement était une force pour nous, en disant nous on va aller au chemin le plus vite, le plus rapide et le plus efficace, et donc c'était là qui était vraiment notre force. Mais bon, comme Pierre l'a dit, voilà, maintenant on a assumé notre côté agence et là aujourd'hui on est Cube et on n'est plus ce Intrafounders qui était beaucoup plus dans les intraprendre de l'époque.
Et alors justement, on va parler maintenant plus en détail de ce que vous faites, mais j'aimerais bien avoir votre définition. Vous vous définissez comme une agence low-code, Cube, en tout cas c'est comme ça que ça apparaît sur votre site. C'est quoi votre définition du low-code ?
Alors moi je pense qu'il y a deux choses.
Est-ce que vous avez la même ?
Alors c'est très compliqué déjà de savoir si on est vraiment aligné là-dessus. Moi je pense que j'ai une idée assez bien faite de ça. Le premier point en tout cas, c'est plus on se différencie en low code plus par rapport, en tout cas pour moi, que le no code aujourd'hui reflète quelque chose qui n'est pas censé refléter. Le no-code, souvent derrière, le premier point, c'est qu'on voit nos expertises derrière. Quelqu'un qui fait du no-code, c'est quelqu'un qui fait ça parce que c'est facile, fait ça parce qu'il en a entendu parler autour de lui, il se dit « mais pourquoi est-ce que je vais embaucher un développeur alors que je suis capable moi-même de faire une application ?» Ce qui n'est pas du tout vrai, parce qu'en fait, une application, ça nécessite plein de métiers différents. ça nécessite d'avoir un designer, ou en tout cas de savoir designer. Alors après, si voilà, si on est quelqu'un qui sait designer, qui sait développer, qui sait faire du project management, qui sait faire du product management tout en un, alors super. Mais ça, c'est des moutons à cinq pattes qui aujourd'hui.
Il n'existe pas beaucoup. Voilà, hein, je pense. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, sans vouloir être critique là-dessus, il y a des gens qui pensent être comme ça. Moi, je pense très sincèrement que tu peux pas être bon dans tout ça. C'est impossible. Juste.
Voilà. Bah nous, voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Alors. Est-ce que ça reflète vraiment le terme low-code ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ça reflète le fait que le no-code aujourd'hui a cette particularité de qui reflète en tout cas le no-expertise que nous, on essaie de défendre en ayant des équipes en interne multidisciplinaires, expertes de leur domaine.
Donc toi, tu définis un peu le low-code. Là, ce que tu nous as dit, c'est un peu plus en opposition finalement au no-code.
Exactement, ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point quand même, c'est que comme l'a dit Pierre au début, c'est qu'on a, nous, des développeurs en interne qui ont un background vraiment de développeurs, qui sont des personnes qui ont l'habitude de penser développement web, donc avec architecture de base de données, avec tout ce qui est voilà, utilisation du back-end et du front-end de la bonne façon, parce que même si Bubble est un outil no-code, on a la possibilité vraiment de séparer ces deux mondes, ce qui est aujourd'hui hyper important pour des soucis de performance, pour des soucis de bonne expérience utilisateur. Et donc là, c'est vraiment, je pense, la différence entre le no-code et le low-code, c'est que un développeur, en tout cas quelqu'un qui a l'habitude de développer des applications web, va avoir le bon, les bonnes idées et la tête suffisamment bien faite pour pouvoir gérer ces problèmes, ces problématiques-là. Et puis évidemment, aussi pouvoir rajouter un peu de code. Donc c'est là où on passe vraiment dans le low-code, rajouter cette petite touche de code de JavaScript, développer des plugins, ce genre de choses qui vont permettre de ne pas être limité par le no-code qui, par définition, le no-code est limitant. Nous, avec le low-code, on veut se dire que ben, cette limite, on ne veut pas l'accepter. On ne veut pas accepter que le no-code soit limitant. Le Bubble n'est pas une stack pour nous qui ne sert que à faire des POC. Bien au contraire, on a pour ambition de vraiment mettre à l'échelle toutes nos applications qu'on développe, et ce, sur vraiment des mois, voire des années, avant que éventuellement soit le business devienne obsolète, soit la technologie elle-même, ce qui n'est pas forcément grave étant donné que c'est le cas pour plein de différents langages de programmation. Quoi.
D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, encore une petite digression, après je te laisserai parler, mais c'est toujours parce que tu vois, il y a beaucoup de critiques en fait qu'on fait au no-code ou au low-code et qui en fait on peut vachement transposer, tu vois, et il y a plein de, c'est tout à fait ok qu'un projet qui a été fait en Bubble un jour il soit développé complètement, quoi. Et si on regarde, je vais dire une connerie mais il me semble pas, Twitter à la base ça a été développé en Ruby on Rails, un jour ils ont tout redéveloppé en JavaScript, quoi, parce que Ruby était plus le langage adapté, etc. Et donc en fait cette transition elle existe de toute façon, parce qu'on parle que de technologie, quoi. Finalement je pense qu'un jour, dans 5 ans, 10 ans peut-être, on fera plus la distinction entre JavaScript, Bubble, Rails, qui sont trois choses différentes. Rails c'est un framework, c'est pas un langage, Bubble c'est un logiciel, et puis JavaScript c'est un langage, enfin bref, voilà, j'entends un peu trop dans le truc, mais bon, c'est des sujets. Pierre, dis-nous.
Ben, je crois que je partage la même vision que Arthur. Peut-être pour compléter son propos, c'est aussi, en fait, tout dépend de ce dont on a besoin. Low code, no code, est-ce que c'est mieux l'un, l'autre? C'est aussi où est-ce qu'on en est dans un projet. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plein de technologies, de stacks qui se développent sur une seule proposition de valeur très très précise, type Zapier, connecter les éléments entre eux. Le Zapier va faire qu'une seule chose et le faire très très bien. Clairement, un entrepreneur se lance avec un besoin extrêmement précis, pas forcément avec un parcours utilisateur complètement unifié, mais d'utiliser un Zapier avec un Excel, avec un Glide, avec un autre outil, et que ça lui permet de générer le début de son activité, le pari est réussi, ça lui a coûté presque rien, voire rien du tout, simplement du temps, et encore ce temps-là est extrêmement court, très pertinent. Même d'aller chercher une prestation low-code un peu plus poussée, ça ne l'est pas pertinent. Mmh. Et alors aller sur du développement traditionnel, encore moins. Ça veut dire de l'expertise en interne, ça veut dire beaucoup plus de coûts et de risques. Mais dans un deuxième temps, du coup, je pense que par rapport à hier, où il n'y avait vraiment que l'alternative soit no-code pur, assez limitée selon nous pour passer à l'échelle, ou le dev traditionnel où il faut avoir une équipe avec un spécialiste front-end, back-end, DevOps, potentiellement lever des fonds, il n'y a pas un euro de chiffre d'affaires qui a été fait, le risque il est considérable. Mmh. Surtout sur un premier produit qui va peut-être mettre 6 à 8 mois à voir le jour, où c'est souvent innovant, parce que si on lance le produit, bah, c'est pas pour faire la même chose qu'hier, donc le risque est très important. Donc le low-code entre les deux, je pense, permet d'avoir un peu les deux en un, conjugue un peu le meilleur des deux mondes, la rapidité du coup du no-code et de l'accessibilité. Même nous, avec nos clients aujourd'hui, on n'a pas de la maintenance, c'est quelque chose qu'on fait pour être présent, mais nous, ce qu'on aime, c'est lancer des projets. Et ce qui est bien avec Bubble, c'est qu'ils peuvent reprendre la main sur leur projet beaucoup plus facilement qu'avec une stack traditionnelle. Et donc, du coup, c'est un peu ce pont entre les deux. Voilà.
Est-ce que, petite question pour réagir juste à ça, est-ce que ça arrive souvent vraiment que des clients puissent reprendre la main? Ça, c'est un truc où, tu vois, je me pose la question, parce que je veux dire, mine de rien, Bubble, il faut s'y former, quoi. Tu vois, il y a un truc où j'avais un peu évoqué d'ailleurs cette question avec une de vos clientes, Hélène, ouais. dans un épisode où elle avait parlé de vous. Et effectivement, j'ai l'impression qu'elle, c'était un petit peu son cas, c'est-à-dire qu'elle avait un petit peu la main sur certaines choses. Mais j'avais pas l'impression quand même que fondamentalement, elle pouvait, sans vous, vraiment faire évoluer son produit, quoi. Mais je sais pas, je pose la question, hein, vraiment.
Alors, Hélène, c'est assez particulier. Je pense que déjà, parmi nos clients, c'est un ovni, si je puis dire. Dans le bon sens du terme. Non, parce que justement, elle a réussi à prendre en main. Son produit est quand même compliqué. Ouais. Pour un produit Bubble, c'est quand même assez complexe. Il y a des workflows partout, des trucs justement en back-end et d'autres en front. Et cette distinction-là, comme je disais tout à l'heure, est très compliqué à faire quand on n'est pas développeur. Et elle a réussi à comprendre vraiment ce qui était fait hyper facilement, enfin beaucoup plus facilement qu'on l'aurait imaginé. Mmh. Et en fait, je pense derrière ça, c'est que c'est beaucoup plus facile de comprendre quelque chose qui a été fait quand on voit le résultat. Et en fait de juste aller derrière la machine et comme par exemple quelqu'un qui ouvrirait sa voiture, sous le capot de sa voiture, et dire bon ok, ça, à quoi ça peut servir, bon bah je regarde et tout, ah ouais ça c'est relié à ça, bon bah ça doit être probablement le moteur, ouais. Voilà, et quand on voit
l'analogie intéressante d'ailleurs, je trouve c'est une bonne analogie, c'est à dire que construire une voiture, c'est hors de portée de la plupart des gens. Comprendre comment une voiture fonctionne quand on a une devant toi et peut-être même réparer un truc.
Et bah exactement. Et je pense que c'est ce qui s'est passé là. C'est vraiment que elle avait ça devant les yeux et puis elle a regardé. Ben ouais, ok, ça a l'air de fonctionner comme ça. Ok, bon ben je vais tester. Et en testant, elle a remarqué effectivement c'était bien ça. Et donc au fur et à mesure, elle a compris ce qui était son application. Et là où je rejoins du coup Pierre, c'est vraiment sur ce côté. Je pense que nos clients, si ils étaient au début de leur projet, ils n'auraient rien pu faire. C'est évident, parce que voilà, Bubble nécessite vraiment une maîtrise, je pense vraiment parfaite, de l'outil pour pouvoir justement créer une application qui est performante et qui puisse justement être évolutive. Et donc pour le créer, ça serait hyper compliqué, voire impossible pour les clients. Par contre, de pouvoir reprendre la main, si en tout cas ils le souhaitent et qu'ils se donnent les moyens de le faire, c'est beaucoup plus abordable justement pour ces raisons-là.
D'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant peut-être aussi sur cette reprise de la main, c'est que là, j'évoquais le fait que le client lui-même reprenne la main, mais on peut imaginer aussi que potentiellement, pour une raison ou pour une autre, il puisse faire reprendre la main ou internaliser, par exemple recruter un bubbler qui lui va reprendre la main, ça, c'est un scénario, ou une autre agence éventuellement. Bon. Parce que ça c'est un truc aussi un peu, enfin on parle souvent du vendor locking, etc. Enfin, du fait d'être enfermé auprès d'une technologie. Moi je pense très sincèrement que c'est bien pire d'être enfermé auprès d'une agence, quoi.
Bien sûr.
Tu vois, moi j'ai vu dans le développement web traditionnel, on va dire, toutes ces agences qui abusent de ça, tu vois, où la moindre modification une fois que le produit est livré coûte, je sais pas, des centaines d'euros, enfin, alors qu'en fait tu fais changer une lettre, tu vois, mais t'as pas la main, peut-être l'agence elle a exprès, et je suis désolé, je suis un peu noir sur les agences traditionnelles, mais pour moi c'est parce que j'espère que le no-code et le low-code va révolutionner de ça, enfin je pense que c'est déjà le cas d'ailleurs, mais voilà, donc ça c'est important, et sur des technologies no-code, enfin comme Bubble par exemple, qui sont standardisées, mais encore plus qu'un langage, parce qu'un langage, 10 développeurs vont faire 10 projets différents, quoi. Bubble, bon, il y a sûrement que vous l'utilisez un peu différemment que nos amis de Ideable, ou... Mais bon, quand même, on est sur un logiciel, je veux dire, qui est... si je te donne un fichier Excel, un autre pro d'Excel, il peut aussi reprendre un fichier, quoi, logiquement.
Mais surtout, ce qu'on voit, c'est à la suite de... Parce que ça, c'est ces critiques de l'agence, non seulement elles sont légitimes, mais en plus, sont fondamentalement vraies. Mmh. C'est pour ça que nous, derrière la promesse, il y a quand même une réalité. C'est que souvent, ce qu'on voit avec nos clients, entre ceux qui mettent vraiment beaucoup les mains dedans et ceux qui ne les mettent pas du tout, il y a 2-3 mois après le projet où il faut être présent pour les derniers ajustements, etc. Mais rapidement, le client devient complètement indépendant. En recrutant un bubbler sur la manière d'utiliser Bubble avec son application, pas un bubbler expérimenté qui pourrait relancer demain un projet qui n'a rien à voir, mais où ils internalisent du coup aussi notamment avec des recrutements beaucoup moins coûteux qu'un développeur traditionnel. Voilà. Ou alors qu'ils mettent complètement les mains dedans. Je pense au projet RRW, du coup, qui était une dating app assez proche de Tinder. Le porteur de projet nous a tous, chez Cube, complètement surpris sur sa capacité à aller complètement modifier l'application après coup sans nous appeler pour nous dire j'ai tout cassé, aidez-moi. Ouais. Et ça, c'est assez rare quand même.
Ça vous arrive souvent d'ailleurs.
C'est plutôt rare, côté vraiment indépendance totale sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Mais on a plein d'autres projets. Hélène a recruté à un moment donné, je ne sais pas trop comment ça se passe aujourd'hui, mais un bubbler. On avait Descapade aussi qui a recruté un bubbler en interne pour les besoins du quotidien ponctuel et pour éviter d'être dépendant de nous ou d'une autre agence.
Pour moi, c'est un peu le meilleur scénario, ça, finalement, parce que ça prouve aussi la viabilité du projet. Tu recrutes quelqu'un, c'est vertueux, ça engage des bubblers, etc. Enfin, c'est un vrai sujet. Alors, aujourd'hui, c'est pas non plus forcément très facile de trouver des bons bubblers, ça, c'est un autre sujet.
Oui.
Mais je trouve ça bien parce que j'ai l'impression, du coup, que votre business model, il est pas du tout tourné autour de ce que font beaucoup d'agences traditionnelles, de la maintenance et de, tu vois, bon, déjà, il y en a qui se gavent déjà dès la vente du produit, mais tu vois, après, tu enfermes les gens et tous les mois, tu leur prends un certain truc pour pas forcément faire grand-chose.
Ouais, sur ça.
Je pense que déjà, alors, nous, faire de la maintenance, c'est pas ce qui nous fait rêver.
Ouais.
Donc, je pense que déjà, par rapport à ça, c'est aussi pour ça qu'on va pas forcément vouloir le faire, en tout cas forcer le client à rentrer dans un modèle comme ça. Et puis surtout, si c'est pour échanger une lettre à un texte,
ouais,
changer un texte, nous on a vraiment pas envie de passer notre temps à faire ça. Donc autant qu'on explique au porteur de projet, pour faire ça, pour changer ton texte, tu vas dans ton élément texte et puis tu changes ton wording. Si maintenant t'as envie de faire un truc un peu plus compliqué, alors, on te conseille de revenir vers nous quand même parce que là, tu risques de casser ton application. Et bon, nous, réparer, c'est pas non plus quelque chose qu'on aime faire.
Bien sûr.
Mais voilà, si c'est changer les couleurs, c'est changer du texte, on les invite à aller le faire eux-mêmes.
Cette autonomie, d'ailleurs, ça doit être un bon argument de vente aussi, non ? J'imagine. Enfin,
Oui. Après, je pense qu'il faut pas se cacher derrière. Il y a une réelle expertise. À la fin d'un projet, on fait un moment de transfert de, pas de compétences, mais pour montrer un peu comment fonctionne l'application avec les principaux éléments à utiliser dans le back-office. Souvent, on enregistre en vidéo ce qu'on fait, parce qu'on nous rappelle après, finalement, et même la vidéo ne peut ne pas suffire. C'est des applications qui sont quand même complexes. Il y a souvent 3 parties, un partenaire, client, back-office, il y a beaucoup d'interactions. C'est loin d'être évident, donc ça permet de donner les premières clés, mais ce serait faux de dire qu'il y a une accessibilité totale et une compréhension de 100% de ce qui se passe sans avoir un risque de casser. Heureusement, il y a des points de sauvegarde sur Bubble, ce qui permet d'y aller par étapes. Mais voilà, c'est quand même la philosophie de donner le bébé et de nous pouvoir rester sur ce qu'on, un, aime faire et deux, sait faire du lancement de projet. La maintenance, la maintenabilité, le côté très présent sur le très long terme, simplement sur des éléments de support, c'est pas l'expertise qu'on a vraiment au fond de nous chez Cube. Voilà.
Ok. Et alors, est-ce que vous pouvez me donner un peu quelques exemples de projets, justement, pour illustrer un petit peu tout ça, toute cette vision très intéressante là que vous nous avez partagée ? Je sais pas, on a parlé un petit peu du projet d'Hélène. Enfin, du coup, là, j'invite les gens à la limite à écouter l'épisode de podcast que j'avais fait avec elle, qui était très intéressant. Des choses récentes, je sais pas, qu'est-ce que...
Oui,
Alors, récemment, on a lancé un projet pour une boîte de crypto-monnaie qui s'appelle Swissborg, qui en fait voulait une application de gestion de communauté, enfin une application communautaire pour dans l'idée de donc réaliser des quêtes pour recevoir des coins justement, et puis ensuite vraiment essayer de gagner un peu d'argent en faisant des micro-quêtes, des missions et tout dans l'application. Donc c'est un projet qui nous a vraiment plu à ce niveau-là. Et il faut savoir que de base, justement, ils étaient sur Glide, et donc sur un outil, pour le coup, complètement no-code, que nous, on n'utilise pas trop par rapport à ces problématiques, en tout cas à l'époque de mise à l'échelle. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ils sont vraiment venus nous voir en disant bon, là, on est bloqué. Là, on a maintenant plus de 3000 utilisateurs. Glide, ça ne fonctionne plus. On aimerait bien tester une nouvelle stack entre les deux, donc que ce soit pas forcément du code tradit, parce que nos ingénieurs, nos développeurs en interne sont complètement bookés, ont déjà l'application principale à gérer, tout, ils ont déjà du mal à gérer ça, ils ont un backlog comme toutes les entreprises qui n'en finit pas, donc on a envie de rester un peu autonome là-dessus. Donc, si on peut être sur une stack un peu plus flexible, on peut dire low code peut-être, ça nous arrangerait. Et donc ils sont allés vers Bubble et donc ils nous ont trouvé et on a vraiment relancé cette application et aujourd'hui donc elle tourne avec plus de 3500 utilisateurs et on est ravis d'avoir pu travailler avec eux là-dessus, parce que c'est un bon cas d'usage, je pense, pour les sceptiques, en tout cas du no-code ou du low-code, ou même de Bubble, qui diraient c'est bien pour un POC, mais je pourrais jamais faire tourner des vraies applications dessus. Et là, c'est une preuve que si.
C'est un projet hyper intéressant. Du coup, moi, je m'intéresse beaucoup aux cryptos en ce moment, donc j'ai suivi ça avec attention. C'est cool d'ailleurs parce que vous documentez beaucoup ce que vous faites sur votre blog. On pourrait revenir. J'ai une petite anecdote d'ailleurs, c'est que Swissborg était allé voir notre ami Stan pour lui proposer de faire l'application Glide et il l'avait pas fait. Et je pense qu'il doit regretter. Il avait proposé de le payer en partie en token d'ailleurs, il me semble. Je sais pas si ils vous ont payé aussi, ils vous ont donné un peu de leur token. Je sais pas si vous avez peut-être.
Je crois que par contre, ça a motivé quelques gens de l'équipe à en acheter.
Ouais. Non, mais en plus, c'est un super projet, quoi. Moi, j'ai un peu regretté parce que moi, je suis chez un de leurs concurrents, en l'occurrence, mais je trouvais que là, ce qu'ils font sur ces fameuses DAO, la communauté, c'est hyper intéressant. Et ça représente aussi un peu une vision que je fantasme un peu pour la communauté Code France. Donc peut-être qu'un jour, on pourra en reparler. Vous pourrez nous aider à faire une application un petit peu dans le même genre pour la communauté, quoi.
Ouais, carrément.
Avec plaisir. Sur un autre type de cas d'usage qui n'a rien à voir, parce que en plus on était vraiment sur du mobile et une expérience vraiment adaptée que pour ce type d'usage. On est en train et on a bientôt terminé un logiciel de comptabilité complet. Enfin, ça, pour le coup, c'est quand on nous l'a présenté, en termes de compréhension, même métier. On avait des comptables avec nous, plus des PM, pour une PME, du coup, qui nous a fait cette demande, où là, avec Bubble, tout indiqué, du coup, parce que c'est vraiment des dashboards avec de la visualisation de data, où on va rentrer beaucoup d'opérations, on va devoir visualiser différentes trésoreries d'engagement. Nous, on a, par rapport à l'ESSEC, ça nous a refait du bien de retomber dans la comptabilité et sur cette connaissance métier.
C'est la première fois que j'entends ça. Mais faire du bien de retomber dans la comptabilité.
Ah, si, c'est très utile au quotidien. Je me bats pour dire ça dans l'équipe, personne ne me croit, mais
c'est important. Hein,
en fait, entre la DAO et un logiciel de comptabilité, en termes de typologie de projet, on est sur des choses qui n'ont rien à voir. Ouais. Ça qu'on adore faire aussi chez nous, c'est rendu lancement sur des métiers qu'on n'aurait pas pu anticiper, mais où les usages aussi sont très différents.
Juste pour être sûr de bien comprendre, parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse, c'est un logiciel de comptabilité à usage interne ou
non,
c'est
à l'externe, en vente pour des comités, pour des CSO.
D'accord, c'est vraiment un logiciel, quoi.
Ah oui, un logiciel vendu, du coup, un peu sous
SaaS,
marque blanche. C'est vraiment cette idée-là, et complètement, j'allais dire from scratch, complètement à partir d'une feuille blanche.
Ouais. Dire ça. Justement, pour revenir un petit peu sur cette typologie de projet, et après pour illustrer un peu chaque typologie, mais ça m'intéresse que vous rentriez un peu là-dedans, parce que moi j'ai l'impression, comme ça, un petit peu vu de l'extérieur, que vous avez développé une certaine expertise autour du mobile, qui est un sujet qui est, enfin, on a quand même souvent tendance à dire, et peut-être moi en partie, hein, que Bubble, c'est pas forcément ce qui est le plus adapté, quoi. Et je pense que est-ce que vous aviez à cœur de montrer que c'était pas le cas, enfin.
En fait, je pense que c'est pas forcément une volonté, c'est plus par défaut. C'est que tout simplement, les applications mobiles, c'est en général du B2C. Et que les applications desktop, pour le coup, sont B2B. Et en termes d'image et de communication, forcément, on parle plus des applications B2C et beaucoup moins des B2B. On a pas mal, justement, d'applications qui sont plus des logiciels métiers, qui, eux, sont en fait bloqués. Enfin, parce qu'une personne lambda ne peut pas y accéder. Et donc, bon, bah, nous, il y a peu d'intérêt d'aller faire de la pub, ouais, ou communiquer là-dessus. Par exemple, là, on a travaillé avec la Fédération Internationale de Tennis. On peut montrer des maquettes, mais bon, quelqu'un qui serait intéressé, ouais, pour aller voir un peu à l'intérieur, bah, il serait un peu détenu.
À usage interne, du coup.
Exactement, ouais.
Est-ce que, justement, sur cette typologie, un peu, c'est quoi les grandes typologies? Est-ce que ça représente peut-être dans votre chiffre d'affaires, j'ai envie de dire, enfin, c'est pas forcément le chiffre qui m'intéresse, mais la proportion. Parce que je pense qu'il y a un peu une conception que les gens ont, et je trouve que c'est très intéressant ce que tu soulignes. On voit beaucoup le côté B2C, les plateformes, les tout le monde qui rêve de faire un Airbnb, etc. Alors que moi, j'ai l'impression que, en vrai, le plus du business, c'est de faire des outils pour les gens, pour les aider à mieux travailler, etc. Nous, c'est un petit peu notre parti pris aussi dans nos formations, mais je pense que même au niveau des agences et même au niveau de la technologie Bubble, c'est quand même un des usages. Mais voilà, je suis curieux de savoir vous un peu.
Mais après, nous, on adore conseiller, challenger, on aime vraiment pouvoir apporter ça comme prestation entrepreneuriale, à clairement orienter plus sur la manière de réaliser une idée. Maintenant, le chef d'entreprise, c'est sa vision, c'est lui qui aura le dernier mot. Et donc après, c'est vrai que même si parfois on essaye vraiment d'avoir un peu ce découpage-là, B2B plus desktop, B2C plus mobile, on reste quand même prestataire et exécutant de la volonté des clients. Mais par contre, si on devait vraiment avoir une sorte de nomenclature pour dire quelle typologie de projet on a fait plus que d'autres, ce serait vraiment très dur. En fait, il y a peut-être un peu plus de projets desktop que mobile, un peu plus de B2B.
Je dirais qu'on doit être à peu près un tiers de mobile, peut-être 40-50% d'applications métiers, oui, donc logiciels métiers, et le reste en marketplace, donc pas mobile du coup, mais B2C.
Ok. Non, c'est intéressant, j'ai pas vraiment de point de comparaison, j'avais pas posé cette question par exemple quand j'avais interrogé Matt de Ideable, et je serais curieux de savoir, mais j'ai l'impression que peut-être dans leur... Parce que tu vois, il y a si on regarde les nombres de projets, et puis il y a la valeur de ces projets, enfin bon, d'argent quoi, et aussi le poids du coup si on pondère un peu comme ça, ou je pense que des fois quand on fait un MVP pour des porteurs de projets, ils ont peut-être moins de moyens... Là, je vous dis un truc, ça n'a rien à voir, mais qu'une boîte qui veut s'outiller, une PME qui tourne bien, qui veut un bon outil de gestion.
Mais d'ailleurs, souvent, celui qui a peu de moyens demande beaucoup plus que, oui, la PME qui a plus de moyens. Ouais. C'est ça qui est drôle, et souvent, c'est là où le conseil est utile pour expliquer que, du coup, même Bubble et la technologie, on en parle vraiment à la fin, rien qu'en termes produits. Pourquoi mettre ces 30 fonctionnalités dedans? Franchement, en termes de test marché, ça va être très compliqué, on prend beaucoup de risques, il vaut mieux d'aller à l'étape. Et c'est vrai que la boîte qui est un peu plus mûre, qui a un peu plus d'historique, va plus naturellement vers ce pragmatisme, si on peut dire, parce qu'elle a vécu aussi et qu'elle sait que, elle sait un peu plus ce qu'elle souhaite tester. Un entrepreneur par défaut, et vraiment le start-upper en particulier qui n'a aucun historique et aussi essaye d'être différent par rapport à ce qui se fait, lui, c'est plus difficile de savoir exactement ce qu'il faut faire, et il est un peu dans cette logique de, pendant qu'on y est, autant qu'on mette tout. C'est là qu'il y a un vrai conseil à faire pour y aller par étapes, et c'est plus ou moins difficile en fonction des porteurs. Voilà.
Ouais. Je pense aussi, pour revenir un peu sur le clivage B2B-B2C, il faut savoir qu'en B2C, la valeur d'un projet, ça va être de faire de la masse, donc ça va être d'avoir finalement beaucoup d'utilisateurs. Un projet B2C va coûter à la fois au niveau du produit, en termes de temps ou d'investissement, mais également au niveau du marketing, au niveau de l'acquisition, ce qui est moins le cas en B2B. Et donc, naturellement, un projet B2C il faudrait, je pense en tout cas, le lancer plus en ayant une approche marketing en abord et acquisition
que technique,
alors qu'un projet B2B, on peut le voir plus entre les deux, ou en tout cas plus du côté technique produit, en disant bon d'accord, on sait quoi, quel est réellement le besoin. Mm-hmm. Alors que B2C, bon, souvent le besoin on le connaît pas, il faut voilà, faire vraiment les premiers tests, et donc dans ces cas-là, peut-être qu'une approche 100% no code pour minimiser d'autant plus le risque serait mieux.
Parce qu'avait fait Swissborg avec Glide. Hein, et
Encore
une fois, on parlait de complémentarité. Ils sont arrivés au... Enfin, c'est un succès, quoi. Nous, c'est ce qu'on dit à nos clients. Vous arrivez à 3000 utilisateurs et vous êtes limité par la techno. Bravo. Et à ce moment-là, on passe à autre chose. On ne pense pas tout de suite à ce 3000-là, alors que le premier n'a même pas eu lieu.
Ouais. C'est dommage, j'étais en Suisse la semaine dernière. J'aurais bien aimé les interroger. Est-ce qu'ils parlent français, d'ailleurs, peut-être enfin, c'est, j'en profite un petit...
Alors nous, notre interlocuteur parlait français, oui. Mais dans la boîte, ils sont internationaux, donc ils ont...
Il y a une belle histoire aussi à raconter, à mon avis, là-dessus. Bon, ça c'est une petite aparté. Non, mais tu fais bien de souligner, je pense que beaucoup de gens dans les entrepreneurs, un peu start-up, comme tu dis, sous-estiment complètement ce budget, qu'il soit en temps ou en argent, sur le marketing, l'acquisition, etc. Enfin, moi, je suis toujours un peu désespéré quand je vois les gens qui mettent tout dans le produit. T'as envie de leur dire, mais ton truc, en fait, jamais il va marcher si t'as pas d'utilisateurs. Et très franchement, il y a des chances que tu trouves pas tes utilisateurs. Donc,
après, le code permet de se rendre compte de ça assez tôt. C'est ça qui est bien aussi.
C'est
que souvent, on a rapidement, du coup, un magnifique produit. Et après, bah, c'est vraiment ce côté. Et après, maintenant, bon, bah, je continue un peu à l'optimiser. Mais du coup, tout le reste, et c'est bien que ça arrive tôt. Parce que c'est très violent. On est tout seul. Souvent, c'est des entrepreneurs qui sont très courageux parce qu'ils sont, ils font tout. La tech, le business, tout ça. Et quand la tech est passée et qu'ils n'ont pas passé 2 ans et demi du coup à la faire, mais plus 1 ou 2 mois, 3 mois en fonction des compétences, bah, là, il y a le gros sujet business qui arrive et qui est le plus important, en fait.
Ouais. Justement, un peu plus sur le côté technique, comment donc vous repoussez, comme vous disiez, vraiment les limites de Bubble à l'aide de code? C'est quoi un peu, alors sans forcément, c'est pas une question vraiment de proportion, mais à quel moment vous allez utiliser du code? Dans combien de projets? Est-ce que dans tous vos projets vous utilisez du code? Un peu, tu vois, on arrivera sur ce point vraiment low code dans votre quotidien, quoi, dans vos projets.
Je pense que déjà dans 80% de nos projets, on a du code. À un moment donné, parce que il faut réussir à faire un truc qu'on avait convenu avec le client. C'est vrai que nous, comme je disais tout à l'heure, le no-code, on l'utilise pour aller plus vite, pour réduire peut-être les coûts aussi de production. Mais surtout, ce qu'on veut pas faire, c'est se limiter. On ne peut pas se limiter en se disant, bon, bah d'accord, on a maintenant choisi cette stack et là, bah, faut faire avec. Parce que, bah, d'ailleurs, on a des gens qui veulent monter un business, on a des gens qui nous font confiance et je pense que c'est notre rôle vraiment de se dire, bon, bah, tu veux faire ça, ça va être possible. On va trouver la solution pour le faire. On ne va pas. Pardon. On va pas te laisser comme ça en disant bon bah non, ça finalement c'est impossible, donc on va pas le faire. Et c'est là où on arrive du coup avec potentiellement du code ou tout simplement peut-être une architecture un peu réfléchie que moi je rentre dans la catégorie low code parce qu'en fait c'est pour moi le low code c'est aussi une idée de développer avec les techniques traditionnelles du web sans forcément utiliser les frameworks ou code traditionnel. Donc au final on se retrouve en général à avoir 10-15% de code de from scratch dans nos applications qui représente finalement plutôt un tiers à 50% du temps. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'on évite de faire tout simplement parce qu'on n'a pas envie. Souvent quand on se lance là-dedans, il faut vraiment qu'on sache où on va parce que ça peut rapidement prolonger le temps, doubler le temps facilement parce qu'on n'avait pas anticipé des choses qui sont assez classiques. Et, si on développe quelque chose, depuis le début avec du code traditionnel, bon, bah, il va y avoir des bugs, il va falloir tester, faire une batterie de tests poussée, etc. Donc voilà.
C'est intéressant ce côté aussi low code, ça peut vouloir dire vraiment quoi. Enfin, finalement, c'est pas dans l'approche, c'est-à-dire peut-être essayer en tout cas peut-être d'en mettre le moins possible.
Bah nous, comme ça qu'on le ressent. Hein. Vraiment, c'est ce côté peu de code, c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir faire en no-code, et si on peut même faire 100%, on fera 100%. Mm. Mais comme dit Arthur, c'est très rare qu'on arrive sur nos typologies de clients qui souhaitent avoir justement sur le marché soit une approche complètement no-code, soit un peu plus custom, du coup par rapport à un besoin bien particulier. Là, on est obligé de mettre un peu les mains dedans. Voilà.
Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est que nos clients, les personnes qui viennent nous voir, ils ont quelque chose en tête. Et parfois, c'est très compliqué de leur faire sortir cette idée-là. Ce qui est normal, ce qui est humain, c'est leur projet, c'est leur bébé. Ils ont mis beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie dedans. Même si on est de bons conseils, c'est pas à nous forcément d'aller dire bah, ça c'est vrai, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Et donc, on veut pouvoir avoir cette flexibilité en disant bah, ça, on accepte de te le faire parce qu'on voit que ça te tient à cœur. À côté, peut-être que ça, par contre, on va te l'enlever. Quoi.
Mais c'est marrant parce que autant, tu vois, ce que tu dis là, moi, je le comprends tout à fait, notamment dans un contexte, je sais pas, d'outils pro, tu vois, c'était vraiment B2B, quoi, on va dire, comme. Ou, bah, de toute façon, bah, si les gens, ils ont besoin d'un outil, de digitaliser un process d'une certaine manière, tu peux pas leur dire, bah non, on peut pas le faire. Fin. Et autant, moi, je trouve qu'il y a une vertu dans l'approche vraiment très no code, c'est que les outils te limitent. Et aussi, du coup, des fois, limitent un peu les entrepreneurs, comme tu disais, ce truc. Tant qu'on y est, on met tout, quoi. Tu vois, au cas où, tu vois, là, on va mettre. Et tu vois, je trouve que des fois, il y a vraiment une vertu à ça. Notamment avec Glide, par exemple, où t'es quand même pas mal limité. Mais ça t'évite de te perdre, ça t'évite, tu vois, tous les gens qui passent 2 heures à choisir leur typo et la couleur et tout. Tu vois, moi, c'est vraiment le niveau zéro. Mais même sur les fonctionnalités, parce qu'en fait, t'es cadré. Parce qu'en fait, tu vas délivrer de la valeur comme ça, quoi.
C'est vrai qu'on est dans l'entre-deux, on est un peu maso hein, à se mettre dans cet entre-deux-là, mais ça parle quand même à une typologie de clientèle particulière, celle qui hésite avec le dev tradi. Ouais.
C'est cette frontière. Je comprends, hein, aussi,
c'est vraiment cette frontière où je sais pas, 90 000, 100 000 euros de presta tradi sur 6 mois avec une absence totale de visibilité sur ce qui va sortir et en termes d'appréhension et une approche low-code plus rapide, moins coûteuse, qui n'est pas non plus complètement no-code et donc limité. C'est vraiment des clients qui veulent pas être dans une approche limitante sans être dans une approche trop coûteuse onéreuse. C'est vraiment l'entre-deux qui hier peut-être existait moins. Voilà.
Non, puis moi je retrouve un peu, j'ai l'impression en vous entendant parler aussi quand même un petit peu un état d'esprit de développeur, c'est-à-dire que j'ai pas de limite, tu vois. Je prends tout comme un challenge, tu vois. C'est-à-dire que, ah ok, tu veux vraiment le faire ça, bon bah ok, on va le faire, quoi. Et il y a une partie de votre travail, comme tu disais, c'est du conseil. Est-ce que challenger peut-être, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu moins aussi sur ça et peut-être aussi prêt plus à faire des choses si le client le veut. On n'a pas de limite, on va le faire. Et puis voilà. À bon escient, hein, mais je veux dire, je sens un petit peu cet état d'esprit.
Tout à fait, tout à fait. Et en fait, nous, en interne, même on travaille selon les méthodes traditionnelles du développement. On essaie de bosser au maximum en agile avec vraiment des métiers différents, développeurs, designers, chefs de projet qui travaillent tous ensemble. Et ces personnes-là, elles aiment ce qu'elles font, elles aiment leur métier, elles ont envie de le pousser quand même au maximum et nous on n'a pas non plus envie de leur dire t'es sur Bubble, du coup ça tu vas pas le faire, quoi. Donc même s'ils connaissent les rouages et ce qu'ils ont le droit globalement de proposer ou pas dans là-dedans, on a quand même envie d'élargir le terrain de jeu pour s'ouvrir d'autres portes et pouvoir toujours un peu comme tu disais, se challenger parce que c'est vraiment ça.
Très intéressant.
Mais parfois et même souvent aussi dans la simplicité. Ça veut pas dire qu'il faut pas forcément faire des projets complètement extrêmement robustes et où il y a énormément de fonctionnalités, mais juste sur cette toute petite fonctionnalité-là, tout va se passer sur le parcours. Du coup, la technique, on l'oublie complètement. Nous, sur les idées, sur ça, pour le coup, on a été rodés avec notre historique. Du coup, on pense vraiment qu'une idée, c'est 1%. C'est 99%. Il y a quelqu'un qui veut venir nous voir pour vendre des melons d'une manière complètement innovante. Super, c'est très bien, moi, l'idée. Mais par contre, derrière, en termes produits, de challenge avec toute l'équipe, on va essayer de vraiment être très innovant en termes de façon d'implémenter et d'exécuter cette idée-là avec Bubble, avec les meilleures alternatives, plutôt que de pusher du standard un peu une sorte de logique de templatisation qui, nous, en fait, nous fait pas lever le matin, quoi.
Ouais, vous êtes vraiment sur du sur-mesure.
On aime ce côté toujours différent, challengeant, très stimulant intellectuellement, où on a des porteurs de projets passionnés par ce qu'ils font, souvent avec des années de métier derrière, où nous on apprend. Je parlais de la compta tout à l'heure, il y a peut-être d'autres sujets plus sexy, je suis d'accord, mais c'est quand même ça qui se passe. Et nous, on est obligé de s'adapter du coup à chaque fois, et sur toute la stratégie de Cube depuis le début. On s'est posé cette question de standardisation ou plutôt de rester dans la personnalisation. Là où on s'éclate, c'est sur la personnalisation. Ouais. Donc, voilà.
D'ailleurs, petit retour en arrière, mais tout à l'heure, tu t'évoquais un peu que en termes de positionnement, vous avez pas mal itéré jusqu'à arriver à vraiment cette vision d'agence sur mesure, low code, un petit peu avec des choses qui viennent du code, d'autres choses qui viennent du no code. Tu me disais que vous aviez un peu hésité à aller peut-être sur un côté très B2B avec des outils low code plus établis, que je connais même pas forcément très bien, mais si tu veux un petit peu évoquer ça.
Oui. En fait, au début, on s'est lancé très vite, parce qu'on a créé la boîte, on a facturé le même jour. Donc, en gros, on s'est laissé embarquer dans une vague avec Bubble, qui était la stack qu'on utilisait, la technologie qu'on utilisait à l'époque. Et en fait, 6 mois après, quand c'est un peu retombé, quand on s'est dit, bon, bah, ça y est, on a un début de quelque chose, mais est-ce que Bubble est peut-être la meilleure technologie? Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres? On a toujours resté très ouvert sur les différents éditeurs qui sortaient. Là, aujourd'hui, il y en a un qui sort tous les jours, donc il faut rester. En veille permanente, et on a fait ce travail de benchmark vraiment en profondeur sur quel serait potentiellement le bubble des grandes boîtes, des grandes entreprises. Et là, en fait, on a découvert un monde qui existe depuis 20 ans, hein, les Power Apps, les OutSystems, les Mendix, les très gros outils low-code. Et c'est vrai que la première réaction a été de se dire, non mais c'est magnifique, ça y est, on n'aura plus le problème du sujet cloud avec les grandes entreprises. Mmh. On a trouvé notre bubble des grandes boîtes. Et en fait, pas du tout. On rentrait en fait dans un autre métier qui n'est pas du tout une agence d'innovation créative, libre, où Bubble est utilisé comme une technologie comme JavaScript où on en fait ce qu'on veut et on n'a pas à suivre une politique. Si on veut faire du no-code Bubble, on fait du no-code Bubble, du low-code, on fait du low-code. Emmanuel ne nous appelle pas tous les matins pour nous dire qu'il faut faire comme ça avec Bubble. On a une liberté totale. Avec ces éditeurs-là, il fallait se fondre complètement dans leur politique. Il y avait d'ailleurs des éditeurs comme Uncork par exemple qui font que de la banque. Il fallait faire du coup se spécialiser par vertical métier. Et en fait, en devenant du coup cet intégrateur, nous on perdait complètement l'ADN, la philosophie entrepreneuriale qu'on avait depuis le début et ce goût pour la nouveauté et la liberté surtout. Et donc on est revenu à notre technologie de cœur initiale qui était Bubble pour vraiment développer une expertise très forte. Aujourd'hui, 95% de notre chiffre d'affaires c'est Bubble, 5% de Webflow, je dirais 5 à 10%. Souvent il y a une complémentarité très intéressante avec le site vitrine. On ne va pas s'amuser à faire toujours des landing pages avec Bubble. C'est plus intéressant même en termes de référencement des SEO avec Webflow. Mais aujourd'hui, on le sait, c'est vraiment quelque chose. On reste quand même à l'éveil. Hein. Il y a beaucoup de technologies sur lesquelles on voit des démonstrations où ils nous font tous les mois peut-être une découverte. Mais
maintenant qu'on connaît bien quand même les limites de Bubble, donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un outil un peu sympa qui corrige un problème de Bubble, on est tenté d'aller voir un peu ailleurs, mais on retourne souvent, même toujours, à notre premier amour, parce que c'est parce qu'aujourd'hui Bubble est tellement flexible et tellement nous apporte cette flexibilité qu'aucun autre outil ne peut nous apporter. Juste pour rebondir rapidement sur ce que Pierre disait, sur des outils, des solutions, même plutôt low code de grandes entreprises, in fine, on devient donc intégrateur, on va faire de la maintenance et on va plus du tout aller lancer des applications, lancer des projets, innover, etc. Et ça, on voulait absolument éviter à tout prix. Donc, c'est comme ça qu'on est vraiment revenu à nos racines et donc à Bubble.
Hein, c'est très intéressant ce retour d'expérience. Ça permet aux gens, je pense, qui n'ont pas du tout d'idée de ce que c'est finalement le métier d'intégrateur et la différence. Là, en quelques mots, vraiment, on voit que c'est flagrant, quoi. Ça, c'est un autre métier entre l'intégrateur et l'agence. C'est vraiment et ça nous montre un petit peu ce low code professionnel, enfin je sais pas si je
veux dire, qui existe depuis longtemps,
grandes entreprises, grands comptes, on va dire, qui existe depuis longtemps, et peut-être qu'un jour je creuserai un peu, mais qui, j'avoue, m'intéresse aussi beaucoup moins. J'ai juste une toute petite question un petit peu technique, mais que je me pose depuis longtemps, comme je connais pas très bien Bubble, et surtout j'ai jamais fait de dev dans le contexte de Bubble. Comment ça se passe pour écrire un plugin? Est-ce que c'est bien documenté? Est-ce que c'est... j'ai un a priori sur cette réponse, mais donc du coup, je la pose complètement candidement.
Alors, je vais répondre déjà à ta deuxième question. En premier, la documentation, il n'y en a pas. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un problème. Après, la politique de Bubble, ça a toujours été très débrouillard. C'était débrouillard, c'est... on ne te facilite pas la vie, on t'a fait un outil pour te faciliter la vie. Maintenant, débrouille-toi. Donc, pour créer un plugin, il faut rentrer dedans, il faut vraiment comprendre finalement tout ce qui se passe, donc comprendre les fonctions qui sont derrière ces plugins. Lorsqu'on crée un plugin, en fait, Bubble a une structure établie, va faire appel à des fonctions JavaScript, va implémenter des composants JavaScript, donc pour le front-end, ou alors des modules Node pour le back-end, enfin voilà, tout ça qui sont pour le coup. Ils utilisent en plus une manière de faire qui est vraiment propre à Bubble, ouais. Avec vraiment leur fonction. Et donc, c'est vrai que sans documentation, c'est assez compliqué. Maintenant, avec le forum aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui expliquent comment ça fonctionne, comment on peut faire. Et puis surtout, bon, bah là, c'est du temps. C'est du temps, okay, à passer dedans. Connaître évidemment JavaScript pour savoir vraiment comment s'articulent les choses, comprendre quand une fonction est exécutée, pourquoi elle est exécutée, etc. Et puis la gestion de variables, les genres de choses. Donc c'est vraiment, là pour le coup, c'est là où on rentre vraiment dans le code, hein, c'est que là pour le coup, on sort de l'univers du no-code complètement, et pour développer un plugin, il faut, ouais. Pardon. Il faut absolument savoir où est-ce qu'on met les mains et pourquoi on le fait.
Moi, ce dont j'ai l'impression, tu vois, c'est que du fait de l'héritage, hein, du fait que Bubble soit autant en avance sur les autres, du coup, ils ont fait un peu leur propre truc, comme tu dis, parce que si je comprends bien, c'est du JavaScript vanilla, comme on dit, c'est-à-dire, c'est pas, enfin, et plus avec leurs fonctions, quoi. Là où, tu vois, des outils qui se sont lancés après, des Airtable, des Adalo, etc., tu fais du React dans le contexte de l'outil, et donc il y a un truc qu'ils ont pris, mais c'est normal, ils l'ont fait plus tard. C'est difficile de blâmer. Je crois que Bubble a commencé littéralement, React peut-être venait à peine de sortir.
Ouais, exactement.
Donc,
je pense que t'as raison. Si le Rust aujourd'hui, il prendrait certainement un framework front-end beaucoup plus standard, type React ou Angular. Mais voilà, bon, ils ont fait le pari de lancer leur propre framework et ça marche bien. Aujourd'hui, en plus, ils ont sorti le nouveau Responsive Engine qui est
qui est un peu la même question d'ailleurs. C'est aussi un peu une question d'héritage. Quand ils sont lancés, le Flexbox limite n'existait pas, ouais, et donc ils sont obligés d'implémenter ça a posteriori, quoi.
Exactement. Mais c'est vraiment une belle surprise, hein. Honnêtement, personnellement, je m'attendais pas à ce que le résultat soit aussi sympa. Vraiment, okay. C'est en termes de performance, en termes de réalisation, c'est vraiment solide. Et ça, c'est je pense que ça montre encore qu'on est sur une technologie qui a de l'avenir devant elle, qui est à peine à ses débuts, et qu'on a fait le bon pari, en tout cas, de se spécialiser là-dedans et de gagner en compétences là-dedans. Parce que derrière Bubble, ils sont en train d'améliorer de jour en jour la performance de l'outil, passer sur des technologies encore plus récentes avec des derrière des ingénieurs qui sont à la pointe, donc nous on a complètement confiance sur le fait que on va pouvoir créer des applications demain qui auront certainement 100 000 utilisateurs, quoi.
Cool. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans la technique, je pourrais en parler des heures aussi, ça m'intéresse cette partie-là. On arrive sur la fin, j'ai juste quelques petites questions. Je suis un peu curieux de savoir comment vous fonctionnez en tant qu'agence, enfin voilà un peu les outils que vous utilisez. J'ai l'impression que vous avez développé avec Bubble aussi une plateforme pour vous gérer vos clients. Je ne sais pas, enfin en tout cas, il y a un onboarding sur le site, je ne sais pas. J'essaie un petit peu de creuser, mais bon, j'ai vu ça de l'extérieur. Enfin voilà, dites-moi un petit peu comment vous travaillez.
C'est rigolo cette anecdote, parce que quand on s'est lancé avec IntraFounders, avant même Cube, justement, avec la puissance du low-code et de Bubble en particulier, on pensait pouvoir faire tous nos outils en interne avec Bubble. En oubliant que un produit, ça se pense sur le temps long, et qu'il y a des gens qui ont fait ça pendant 10-15 ans, typiquement avec des outils internes comme Jira, et qui sont beaucoup plus efficaces. Certes, il faut payer un abonnement, mais où clairement, rapidement, en interne, on a limité du coup nos créations à des tâches très circonscrites, pour utiliser des outils beaucoup plus traditionnels de process. Et nous, aujourd'hui, du coup, Cube compte 18 personnes, et on a un gros tiers de développeurs, du coup, un bon tiers de designers, et après le reste en fonction support, sales, marketing, gestion de projet, exactement. Et voilà, on travaille par squad, en fait. On a des squads projets où on va avoir un un tech lead qui a son équivalent design avec un lead designer. Du coup, le lead designer va plus penser le produit avec le client, toujours clairement en travail avec le tech lead qui a l'expertise sur Bubble. C'est un développeur senior sur Bubble qui va pouvoir donner des alternatives ou confirmer ou invalider ce qui est bubblisable ou pas. Et après, du coup, un développeur senior, développeur junior, designer junior, ça fait des squads de 4, 5, 6 personnes maximum en miroir entre les devs et les designers, plus un chef de projet du coup qui travaille avec chaque squad en fonction des projets. Donc voilà, aujourd'hui c'est vrai que sur Bubble il y a cette proximité entre designer et développeur au sein d'une même squad est très pertinente. Notre rêve c'est de pousser nos designers vers l'intégration même front sur Bubble. On travaille cette liaison du coup entre les deux métiers, mais voilà, il y a une proximité qui est intéressante. Ouais.
Et pour revenir sur les outils aussi qu'on utilise, donc au final on fait plutôt de l'automatisation en interne avec du Zapier, avec voilà, donc Jira, d'autres solutions, et on a décidé un peu de laisser tomber nos outils vraiment développés en interne, aussi parce que au niveau de la maintenance, bon bah il faut, à partir du moment où on a un outil, on est responsable de, enfin qu'on a développé un outil, ouais, on est responsable de le maintenir, et bah ça fait du temps en moins pour les projets qu'on fait pour nos clients. Donc aussi c'est une des raisons pour lesquelles on utilise encore quelques outils Bubble, mais on a vraiment essayé d'arrêter au maximum.
On a quand même l'outil d'onboarding pour les clients, du coup, qui rentrent et peuvent. Mais c'est un multi-step assez court, hein, qui permet de centraliser la demande pour l'externe, du coup.
Ok, ça c'est pour rentrer quoi, mais après, une fois que le projet démarre.
Voilà, après, l'humain revient. Ouais. On a eu des tentatives de produits en interne où on automatisait la manière de faire le cahier des charges, etc. Mais encore une fois, il aurait fallu faire que ça.
Puis on en revient un petit peu aussi peut-être à ce côté un petit peu sur mesure que vous avez,
voilà,
vous avez envie.
Exactement.
Aussi, et donc un accompagnement, ouais, et donc peut-être un peu moins, si je fais un parallèle peut-être avec le fonctionnement d'AirDev, qui est très streamliné, j'ai même pas le mot en français, mais je sais pas, très, enfin voilà, très directif. Enfin, on avait fait un épisode du coup avec un peu dédié aux agences, avec Lucien qui parlait d'AirDev et Matt qui parlait d'Idable, et donc et on voyait que chez AirDev quand même c'était c'est une ligne droite quoi, le client il est dans un tunnel. Là pour le coup c'est un peu tout le temps templétisé.
Oui. Non, nous on y tient, ça vraiment pour le coup, et même aujourd'hui c'est vraiment une fierté d'avoir beaucoup de designers, des chefs de projet, des développeurs, pas
moi,
une
je m'attendais
seule
pas
personne
à
qui...
la proportion que tu disais, un tiers, enfin ouais, qui est autant à peu près de designers que de...
Bah parce que nous vraiment pour le coup on est content de pas être une content, et c'est ce qu'on essaie de construire tous les jours, pas une agence de dev web, on est une agence d'innovation. Donc avec innovation il y a le produit, et le produit il faut du temps, des métiers et ce cloisonnement du coup avec Bubble, c'est un cocktail hyper intéressant quoi. Voilà.
Est-ce que les designers travaillent un peu dans Bubble?
Ben justement, du coup, c'est un des gros travaux de fond qu'on a. Alors, une proximité de culture dans la maîtrise. Ils voient Bubble tous les jours pour intégrer des designs toujours plus en adéquation avec ce que Bubble permet, ou être permissif, mais dans quelle mesure, enfin il y a toujours ce regard là mais c'est vrai qu'en interne c'est un sujet important pour nous. Ça,
Bubble, ça reste le ciment quand même dans les équipes, hein. C'est ce qu'il dit tout le monde, et donc évidemment il faut que tout le monde ait un peu la notion de voilà, ce que Bubble est capable de faire, de ce qu'on peut faire et tout, mais avant tout je pense que, mais ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que nous on veut pas être limitant, donc nous ce qu'on veut c'est que nos designers sache qu'on est sur une technologie web, donc que globalement bon, tout ce qui va être du natif, de téléphone, etc., ça c'est les choses sur lesquelles on va pas aller, qu'on va essayer de faire des UX vraiment web, et donc à partir du moment où ils savent ça, finalement Bubble c'est une technologie web, donc en général ça matche très bien. Et donc c'est surtout ça qu'il faut qu'ils comprennent, et donc eux vont travailler avec le client pour justement sortir la meilleure UX possible, la meilleure UI possible aussi dans les temps impartis, en général avec une supervision justement d'un tech lead pour vérifier qu'il n'y a pas de choses qui soient vraiment impossibles à faire, ou en tout cas qu'il n'y ait pas une meilleure solution. Ça se passe très bien.
Super intéressant. Bah écoutez, on arrive un peu sur la fin. J'ai une dernière question, juste si vous pouvez nous partager un petit peu votre feuille de route, je sais pas, un petit peu les recrutements. D'ailleurs, peut-être aussi un petit peu, vous l'avez évoqué un petit peu déjà, mais Est-ce que vous allez recruter? Qu'est-ce que vous cherchez comme qualité aussi pour les gens qui écoutent éventuellement, ou même juste parce que c'est intéressant de savoir quoi?
Oui, bien sûr. Bah alors du coup, nous, surtout depuis l'année dernière, on sait vraiment où on va maintenant avec quelle technologie. C'est Bubble, vraiment devenir leader européen. On va commencer par cette ambition-là, parce qu'aux États-Unis, il y a vraiment déjà une différence culturelle et une distance géographique où il faut rester pragmatique. Aujourd'hui, en Europe, sur la spécialisation, même sur Bubble, sur du développement custom et personnalisé, il y a très peu d'acteurs. On fait partie des seuls pour le moment. On a même hâte que cette concurrence vraiment naisse pour faire venir un peu, encore plus d'attrait et de curiosité pour cette technologie. C'est vraiment notre vision, devenir leader européen sur Bubble, dans cette approche d'agence d'innovation low-code, de lancement de projets, vraiment spécialisé sur le lancement de projets ou de renaissance de projets existants, avec du coup 3 à 4 grands métiers que sont évidemment le métier de développeur, où là à la rentrée on va avoir une grosse campagne de recrutement qui est déjà en cours, mais c'est vrai que on l'a remarqué depuis 2 ans maintenant, plutôt en début d'année qu'on fait ces recrutements là de designers également, beaucoup de gestion de projet aussi. Comme on a de plus en plus de projets, on a vraiment une équipe projet qui est en train de se développer avec toute la partie customer success, gestion de projet opérationnel et supervision vraiment en termes de process. Donc un peu ces 3 grands métiers chez nous qui ont une importance cruciale, un développeur, designer et chef de projet, gestion de projet.
Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, je trouve qu'il y a aussi un écueil, dans les nombreux écueils qu'on assiste dans cet écosystème là qui est en train de se créer aussi, c'est de beaucoup sous-évaluer, je trouve, la gestion de projet, tu vois. Et un peu comme on disait tout à l'heure, tu vois, c'est-à-dire que franchement, c'est impossible qu'un freelance, il sache tout faire, soit moi en design et en Bubble ou en no-code. Et en plus, c'est encore plus rare souvent, et je trouve qu'on ne les forme pas beaucoup à ça, malheureusement, et bon, il n'y a pas encore beaucoup de formation, à comment gérer un projet, comment prendre un brief, comment cadrer un projet. Parce que ça t'évite tellement d'écueils par la suite, tellement de problèmes dans ton... Souvent, les problèmes, ils sont pas techniques, en fait. Ils sont dans le cadrage à la base. Et évidemment, pour une agence, ça paraît un petit peu comme une évidence, mais j'aime bien le souligner aussi parce que dans notre communauté, on a quand même beaucoup de freelances qui font des projets en direct avec le client. Et je trouve que partager, tu vois, ces bonnes pratiques d'agence et cette manière de fonctionner, ça peut aider les gens à se projeter un petit
peu.
Bien sûr.
Ouais. Ben c'est pour ça, nous, c'est la grosse différence qu'il y a avec notamment la première partie de notre histoire. La première partie de notre histoire, c'était des développeurs seniors, multi-casquettes, chefs de projet, designers. Enfin, il y avait trop de choses pour les faire bien. Et le fait de revenir, on n'a rien inventé, clairement un cloisonnement plus sur des métiers qui font sens pour lancer un produit, c'est-à-dire designer, développeur, tech lead et chef de projet, on a les bonnes personnes au bon endroit et le client ne se sent plus... il se sent pas perdu, quoi. Il se sent vraiment avec la bonne personne au bon moment du projet et cet interlocuteur de confiance qui est capable de passer justement de sujet de design à tech pur pour garder la globalité et un peu le ciment dans toute la prestation de conception et de développement. Le chef de projet aujourd'hui, qu'on soit sur du no-code, low-code ou du dev tradi, il est central.
S'il y a bien une chose qu'on a appris aujourd'hui, c'est que dorénavant, on se lance plus dans un projet en dev sans savoir où on va. Ce qui était vraiment le cas encore il y a un an et demi, enfin au début, où on disait c'est bon, on a Bubble, on a des super pouvoirs et on va pouvoir
on pourra tout faire
et tout machin. Non, aujourd'hui cette phase justement de conception est hyper importante et on préfère la faire traîner s'il le faut pour pouvoir vraiment voir tous les aspects, voir toutes les problématiques et dire au client finalement ok, on s'était projeté sur 4 semaines, ce sera peut-être un peu plus longtemps mais c'est pour le bien de ton projet, et ça en général le porteur de projet comprend complètement.
Bien sûr,
parce que c'est
il se projette quand même sur son produit, parce que sur avec Figma notamment, notre outil principal avec nos designers, il y a du prototypage très poussé avec l'ensemble des écrans, donc on sans que l'app soit vraiment sortie, on peut faire ce travail déjà d'itération en conception, donc
Super, bon, on pourra en parler pendant des heures, mais c'était hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Où est-ce que vous avez un blog, je trouve, qui est hyper intéressant?
Oui, alors le principal canal, ça reste LinkedIn quand même aujourd'hui. Ouais. C'est vrai qu'on communique peu, mais on essaye à chaque fois de donner quelque chose à la communauté qui, selon nous, a de la valeur, que ce soit des démos, que ce soit des cas d'usage vraiment importants. Alors sur Medium aussi, mais c'est vrai que le principal canal qui ressort aujourd'hui, c'est LinkedIn. Donc voilà, ou notre site directement, cube.fr. Voilà.
Bon, je mettrai toutes les.
Et puis vous pouvez
les
trouver en général au Meetup Bubble où on est assez assidu.
Oui, assez assidu.
Tout à fait. D'ailleurs, il y en avait un chez vous le mois dernier.
C'était super, raté, malheureusement. Notamment pour la démo Swissborg. Ouais.
Et on m'a dit que vous alliez de plus en plus communiquer maintenant.
En effet. Ça y est, les deux premières années sont passées et tout. Et on vient sur ces sujets-là vous montrer tout ce qu'on a pu faire et ce qu'on fera demain.
Cool. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, on va suivre tout ça avec attention. Alors.
Merci
de nous avoir reçus. Ouais.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire sur le Slack de NoCode France, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour avoir les prochains épisodes, et notamment le prochain épisode, son 71, donc le deuxième épisode de la saison 7, qui continuera sur ce thème du low-code. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette conversation. Je trouve que voilà, Pierre et Arthur sont dans le no-code game, le low-code game depuis un moment. J'ai envie juste d'attirer un petit peu votre attention sur la conclusion que je ferai un petit peu de tout ça. C'est que là, vous avez une première, finalement, définition du low-code, qui est l'utilisation d'outils no-code avec du code. Vous l'avez bien compris dans la démarche de Cube. Et c'est une approche que je trouve très intéressante, je l'ai déjà dit. Et qui ne remet pas en cause le côté no-code des outils. Vous l'avez compris, ils utilisent énormément Bubble, également Webflow, deux outils no-code dont on parle très souvent dans ce podcast, mais leur approche est de ne se faire aucune limite. Voilà, et donc ça c'est une première chose qui va faire un peu le pont, comment dire, avec le prochain épisode, où là j'ai invité Thomas, qui est un expert vraiment des outils low-code, qui travaille pour une plateforme qui s'appelle Generative Objects, qui est également, qui travaille désormais chez Payfit. Il va nous raconter tout ça, je ne vais pas vous spoiler, mais vous allez voir que là, on va passer vraiment dans le low-code professionnel en quelque sorte, et là, les outils dont on va parler sont vraiment des plateformes low-code dont, on va dire, l'usage nécessite du code, mais il y a des subtilités, il y a pas mal de choses à évoquer, et donc ça sera vraiment pour le prochain épisode. Mais voilà, je voulais vous souligner un petit peu ça, toujours un petit peu cette ambiguïté, j'ai envie de dire, qu'il y a autour du terme low-code. Si vous avez écouté beaucoup des épisodes, vous connaissez un petit peu mon avis sur la question. Mais voilà, j'avais envie de creuser et de faire un petit focus, et il y aura peut-être d'autres épisodes qui continueront un petit peu là-dessus. Mais voilà, ce premier épisode, il fait un focus sur l'approche low-code des outils no-code. On le répète à longueur de temps, hein, vraiment, no code ne veut pas dire pas de code, ne veut pas dire on oublie les développeurs, on remplace les développeurs. Il y a des opportunités de collaboration extraordinaires avec les outils no code. Vous l'avez vu ici dans un exemple avec Bubble, et on creusera probablement une utilisation plus low code d'outils comme Zapier et Airtable, qui sont des outils, vous le savez, auxquels on forme chez Contournement. Voilà, je m'arrête là, c'est une longue conclusion, et je vous dis à la semaine prochaine pour continuer cette plongée dans l'univers du low-code. C'est pas une plongée forcément en profondeur, on essaye de rester un peu en surface pour pas vous noyer, mais voilà, c'est quand même important aussi d'en parler. On me pose régulièrement des questions sur c'est quoi le low-code, c'est quoi le no-code. Maintenant, vous avez d'autres personnes qui vous en parlent, qui vous donnent leur avis. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Thank you.